le monde, auprès de nos frères qui sont persécutés à cause de leur foi. Et donc, le tableau de notre monde s'est assombri brutalement. Et puis cette semaine, on avait la COP21 qui fait planer une menace terrible sur notre planète. C'est la rencontre au sommet qui nous est présentée comme l'ultime occasion de régler la gestion suicidaire de la planète. On se demande si ça vaut encore le coup de faire des enfants. J'ai l'impression que dans l'Église, la réponse est oui. Est-ce que ça vaut le coup de faire des projets? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour nous, pour notre planète, pour nos familles? Par ailleurs, nombre d'entre nous traversent des difficultés. Parfois, ce sont des difficultés familiales qui nous assaillent, qui mettent à mal nos couples, nos familles. Parfois, ce sont des difficultés professionnelles. Parfois, ce sont des problèmes de santé qui nous accablent. Et toutes sortes de choses pourraient nous voler l'espoir et notre espérance et notre joie. Ce que nos frères ont chanté tout à l'heure, l'espoir de Noël, c'est le message qu'on voudrait transmettre pendant tout ce mois de décembre au travers du livre d'Ésaïe. Espoir pour le monde. Il y a un espoir pour le monde. Ésaïe a prophétisé dans une période où l'espoir semblait complètement perdu en Israël. La déportation du royaume du Nord s'était faite. Le déclin spirituel du royaume du Sud, l'annonce du jugement et de la déportation à Babylone, bref, tout semble s'effondrer. Et Ésaïe annonce, prêche en Israël dans un tableau au moins aussi sombre que le nôtre aujourd'hui, et à bien des égards bien plus sombre. Les prophéties d'Ésaïe se découpent on pourrait dire, un peu comme toute la Bible. Il y a 66 chapitres dans le livre d'Ésaïe. Il y en a 39 qui rappellent tous les jugements qui vont frapper la nation. Et puis, les 27 suivants, apportent une espérance merveilleuse à cause de la venue du Sauveur. Et le texte que je vous propose pour notre méditation ce matin, Consolation dans la détresse, se trouve en Ésaïe 40, et on va faire la lecture des versets 1 à 11. Ésaïe 40, versets 1 à 11. Voilà ces paroles. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, « Crie !» Il répond, « Que crierai-je ? » Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu, de notre Dieu, subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Waouh ! Alors comment la consolation elle nous parvient-elle dans la détresse ? Je vous propose d'examiner ce matin l'annonce de l'expiation. On verra ensuite la gloire de la restauration, la certitude de la promesse et puis enfin la puissance de son bras. Comment la consolation nous parvient-elle dans la détresse ? Vous connaissez cette histoire, ce conte populaire de Barbe Bleue ? Dans la version la plus célèbre qui a été donnée, c'était celle de Charles Perrault, parue en 1697. Barbe Bleue, c'est un riche roturier, mais il a une barbe bleue. D'où son nom. Et une barbe bleue, c'est pas très esthétique. Donc, il est méprisé, il est rejeté. Malgré tout, à cause de sa fortune, il a réussi à se marier à plusieurs reprises. Mais, curieusement, ses femmes disparaissent. Alors, il invite d'autres de ses voisines à l'épouser. Plusieurs refusent. Finalement, il y en a une qui est intéressée par son argent. Alors, elle accepte. Quelques jours après les noces, Barbe Bleue doit s'en aller en voyage, alors il confie le trousseau de clés à sa femme, de tout le palais. Et lui dit, il y a une petite clé là, hein, qui ouvre une porte. Ça, c'est la seule porte que tu ne dois pas ouvrir. La femme curieuse va quand même utiliser cette petite clé, elle ouvre la porte, et là, stupeur, elle découvre les corps des femmes précédentes accrochés au mur. Ses clés tombent, elle tombe dans du sang, et elle n'arrive pas à enlever le sang, c'est du sang magique. Et elle referme, et juste après, son mari arrive. Il réalise ce qu'elle a fait, qu'elle l'a trahi. Alors, et il dit, tu vas mourir pour ça. Elle le supplie en lui demandant, mais donne-moi juste un quart d'heure que je puisse aller prier. Elle sait que ses deux frères, qui sont des militaires, doivent venir le jour même. Alors elle se réfugie pour prier, et puis sa sœur, Anne, va monter sur une tour pour voir s'il y a de l'espoir, s'il y a une délivrance qui s'approche, si les frères arrivent. Et donc vous connaissez la réplique, « Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et elle répond, « Je vois le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Le message est assez peu encourageant. Hein. Elle répète, « Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et en bas, il y a Barbe Bleue qui hurle, « Je vais t'égorger !» Et puis finalement, il monte, il l'attrape. Et au moment où il s'apprête à la tuer, les frères arrivent. Finalement, c'est Barbe Bleue qui meurt. Les frères sont nommés capitaines de l'armée. Anne épouse un formidable jeune homme et l'épouse est reprise par un autre. Voilà, l'histoire est merveilleuse. Pourquoi tout ça ? Simplement pour dire, quand on est dans la détresse, quand on connaît une grande détresse, lorsqu'on voit le malheur arriver, cette même question vient dans nos cœurs. Ne vois-tu rien venir ? Ne vois-tu rien venir ? Est-ce qu'il y a un espoir ? Y a-t-il une espérance ? Et s'il y a un espoir, on ne se contente pas de dire le soleil poudroie, l'herbe verdoie. On crie la bonne nouvelle. On la crie, on la hurle. On veut que tout le monde l'entende. Et c'est ce qui est dans notre texte que, à quatre reprises, on entend une voix qui crie et qui annonce une bonne nouvelle. Les quatre voies introduisent quatre vérités essentielles pour notre consolation. Et donc, c'est ces quatre voies qui vont faire le découpage de notre texte ici, et on va écouter ce que disent ces quatre voix. Et je trouve, avant de voir la première, absolument remarquable que juste après avoir annoncé la destruction de Jérusalem, la déportation à Babylone, Dieu annonce la consolation à son peuple. Si vous voulez tourner juste la page qui précède, le chapitre 39, le verset 5. Voilà ce que Ésaïe dit au roi Ézéchias. Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Il annonce, c'est mort maintenant, c'est définitif. Je te l'annonce, maintenant vous allez partir en déportation à Babylone. Et le verset qui suit, chapitre 40, verset 1, il commence par dire, consolez, consolez mon peuple. Dans la pensée de Dieu ici, la chose est arrivée, la chose s'est faite, le jugement est tombé, le peuple est parti en déportation, mais il envoie immédiatement cette parole de consolation. Et je trouve ça merveilleux. La chose n'a pas encore eu lieu. Le jugement n'a pas encore été exécuté que déjà Dieu annonce la consolation à son peuple. Vous voulez savoir, est-ce qu'il y a une consolation possible? Dieu a déjà préparé une consolation. Dieu a déjà préparé une consolation. Il ne va pas tarder à la faire parvenir. Il est le Dieu de toute consolation. Dieu gardait de grandes bénédictions en réserve pour Israël, car c'était le peuple qu'il avait choisi. Et il ne sera jamais rejeté, ce peuple. Ils vont passer 70 ans en exil, esclaves à Babylone, mais les destinataires forment toujours le peuple de Dieu. Vous avez noté, il dit « Consolez, consolez mon peuple ». Consoler mon peuple. 70 ans d'exil n'ont pas pu altérer la relation entre Dieu et son peuple. Et il dit, consoler mon peuple, dit votre Dieu. Vous savez, les souffrances, les difficultés, le tableau sombre que l'on peut connaître ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Et puis la première voix se fait entendre au verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem. Écriez-lui que sa servitude est finie. La première voix, elle dit, voyez quel amour le Seigneur a pour vous. Il veut parler à votre cœur. Il veut faire venir sa consolation dans votre cœur. Et puis, vous voyez avec quelle force il veut que son message lui parvienne. Criez-lui que son iniquité est expiée. Ça, c'est une bonne nouvelle. La servitude est finie. Son iniquité est expiée. Car sa méchanceté, sa désobéissance a été largement payée. Il dit ici, elle a été payée au double. Dieu a largement payer pour sa désobéissance. Et comment est-ce que se fait l'expiation? J'aimerais vous montrer en Lévitique, chapitre 17, verset 11. Il dit, « Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Et puis en Ésaïe 53, verset 6, je lis, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » La méchanceté de nos cœurs, l'iniquité, réclame la condamnation, la mort. Et Dieu dit, « Le seul moyen d'expier, d'effacer, de racheter cela, c'est de faire une expiation par le sang. Et le seul sang qui puisse faire l'expiation, c'est celui de Jésus-Christ, celui qu'annonce Ésaïe 53 et au verset 6. Nos péchés ont des conséquences. Et nous supportons tous, à divers niveaux, les conséquences de nos fautes. Parfois, ces fautes ou ces conséquences, on les supporte durablement. Pensez à un gars qui est en prison. Pensez à quelqu'un qui connaît un divorce. Les conséquences sont lourdes. Elles pèsent sur nos vies. Mais ce ne sont pas nos conséquences, les conséquences de nos péchés, qui font l'expiation. Ce ne sont pas les conséquences de nos péchés qui font l'expiation. Notre faute, elle est premièrement envers Dieu. Et la bonne nouvelle qui nous est criée ici, c'est que Dieu a été apaisé. La justice de Dieu a été satisfaite. Non pas par les conséquences de nos fautes, mais par le sacrifice de Jésus-Christ. Christ est mort pour nous. Il a reçu le salaire de nos fautes. L'expiation est faite. Alors le pardon est offert à celui qui croit en Christ. Peut-être aurez-vous à supporter des conséquences de vos fautes. Mais vous n'aurez pas à supporter la culpabilité due à vos fautes. Vous êtes libre en Christ, simplement parce que Jésus-Christ a fait l'expiation de nos fautes. Ça, c'est ce que crie la première voix. Elle dit, vos péchés sont effacés. Vous n'avez pas besoin de porter cette culpabilité. Jésus-Christ l'a payé pour vous et l'a porté pour vous. La deuxième voix s'écrit au verset 3. Préparez au désert le chemin du Seigneur. Puisqu'ils ont été pardonnés, Dieu ramènera les exilés et il aplanira leur voie. Il va les faire revenir d'une manière magistrale du pays de Babylone. Tout obstacle va être aplani, toute vallée va être comblée. Dieu va susciter un homme, Cyrus le Perse, qui va non seulement donner autorisation aux Juifs déportés de rentrer à Jérusalem, mais il va aussi demander à son peuple, les Perses, de donner de l'argent, de l'or, toutes sortes de biens et toutes sortes de bétail, et même une offrande spéciale pour que le peuple de Dieu puisse reconstruire le temple de l'Éternel. Dieu est un Dieu gracieux. Il révèle sa gloire en restaurant son peuple. Dieu ne se contente pas de faire justice. Non, il répand sur ses enfants sa grâce. Il veut montrer sa gloire de cette manière-là, en nous restaurant. Après que le roi David, ou que David le petit berger, soit devenu le roi d'Israël, il est monté sur le trône. Après avoir été poursuivi pendant à peu près une dizaine d'années par Saül. Et Saül meurt, David accède au trône, et finalement, il fait rechercher les descendants de Saül. Et il trouve un gars, Méphibosheth, descendant de Saül, mais qui s'est exilé au loin, le plus loin possible de David, parce qu'il a peur que David se venge. David le fait chercher, il le ramène à Jérusalem, et puis là il lui dit, tu sais, je vais te rendre toutes tes terres, tous tes biens. Je vais aussi te donner des serviteurs pour qu'ils puissent cultiver tes terres. Et toi, tu vas manger chaque jour à ma table, comme mes fils. Et à ce moment-là, Méphibosheth dit, mais comment est-ce possible que tu regardes un chien mort tel que moi et que tu fasses miséricorde à ma famille
Et David, en fait, là, il veut montrer sa grâce. Il n'est pas plus grand en tuant les gens, en se vengeant lui-même. Il est grand en faisant miséricorde, en restaurant les hommes. La gloire de Dieu, c'est de restaurer et d'élever en dignité des pécheurs tels que nous. Dieu ne se contente pas de nous pardonner, il nous rétablit, de sorte que sa gloire est manifestée. Au verset 5, il est dit « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée ». Dieu veut montrer sa gloire dans la restauration qu'il nous accorde. Barbe bleue était impitoyable. Il était cruel. Et du coup, il est pitoyable, il est misérable dans sa cruauté et dans son incapacité à faire grâce. La véritable grandeur de Dieu, elle se manifeste dans sa capacité à faire grâce et à relever le pécheur repentant. Magnifique. Quel espoir, quelle espérance pour nous. Dieu rétablit, restaure, et il veut montrer sa gloire de la sorte. La troisième voix, on la trouve au verset 6, il est dit, une voix dit, crie, et l'autre répond, mais que crierai-je ? C'est vrai. Une fois que vous avez été pardonné de toute votre faute, une fois que vous avez été restauré d'une manière insoupçonnée, qu'est-ce que vous pouvez encore espérer ? Est-ce qu'il peut y avoir encore une autre nouvelle qui puisse vous faire du bien ? Et voilà ce que Dieu crie. Il dit, écoute, je veux que tu comprennes que la chose est certaine. Vous savez, la crainte qui peut nous gagner dans ces moments-là, c'est la suivante. C'est quand Dieu nous pardonne et qu'il nous restaure, est-ce que tout cela est conditionné à notre fidélité ? On se dit, mais bon, ok, Dieu me pardonne, Dieu il me restaure. Mais si moi je retombe, si moi je ne suis pas fidèle, si je chute, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ses promesses, il va les maintenir ? Est-ce qu'il va les garder envers moi ? Et nous, on sait à quel point on est changeant. Il dit au verset 7, « Certainement, le peuple est comme l'herbe. » Et comment il vient de décrire l'herbe ? L'herbe sèche, la fleur tombe. Tout son éclat passe en un instant. Nous, on est éphémère. Nous, on est versatile. On est changeant, on est inconstant. David, le berger, toujours, il reçoit la promesse que son fils, une fois qu'il est sur le trône, il veut construire la maison de l'Éternel et Dieu lui dit, non, ce ne sera pas toi qui vas bâtir cette maison à l'Éternel, mais ce sera ton fils. Et puis Dieu lui dit, je vais même te dire autre chose. Je vais toujours garder un de tes descendants sur le trône d'Israël. Et même le Messie sera de ta descendance. Le fils de David régnera et il régnera toujours. Et à ce moment-là, David il tombe devant Dieu et il dit, mais comment est-ce possible que tu me fasses cette faveur à moi et même que tu m'annonces la chose à l'avance ? Il est émerveillé de la chose. Mais quelques chapitres plus loin, on apprend que David commet un adultère. On apprend que David, il ment comme un arracheur de dents. Et puis, il va même faire commettre un crime terrible. Et là, on pourrait se dire, mais Dieu a fait une promesse. Il s'en mord les doigts, non ? Il va changer le truc. Il ne peut quand même pas garder une telle promesse, une telle faveur envers un gars qui est changeant comme ça, qui est, qui est tombé aussi bas. Dieu dit, tout le peuple est comme l'herbe. Tout son éclat passe. Mais la parole de Dieu, la promesse de Dieu, demeure éternellement. Les promesses que Dieu nous fait, elles sont certaines. Quand Dieu fait alliance avec nous pour nous sauver, il s'est engagé lui seul à le faire et à nous sauver. Il a rempli sa part de la promesse et s'est engagé à nous pardonner quand nous ne ferons pas notre part. Et il est mort pour cela, de sorte que nous sommes certains de jouir éternellement de ce précieux salut. Les promesses de Dieu, elles ne sont pas conditionnelles à notre fidélité. Sinon, nous n'en jouirions jamais. Mais elles reposent sur sa fidélité à lui. Et c'est cette assurance qui stimule notre fidélité, notre désir de fidélité. C'est cette précieuse assurance que Dieu nous donne. La quatrième voix s'élève au verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix et ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Et là, il va présenter la puissance du bras de Dieu. Nos cœurs sont lents à croire. Nos cœurs sont lents à faire confiance au Seigneur, à s'emparer de la consolation et des promesses de Dieu. Et c'est pourquoi cette nouvelle voix est chargée de dévoiler ou de rappeler le caractère de Dieu. Et son bras est puissant. C'est l'image, le bras de Dieu, c'est l'image de son omnipotence. Il peut tout. Il dit, verset 10, « Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et il les portera dans son sein, et il conduira les brebis qui allaitent. » C'est le bras de l'Éternel. À plusieurs reprises dans la Bible, il nous est parlé du bras de l'Éternel. C'est le bras de l'Éternel qui a frappé l'Égypte pour que son peuple puisse sortir. C'est le bras de l'Éternel qui a frappé les ennemis et qui a ouvert la mer Rouge. C'est le bras de l'Éternel qui les a conduits au travers du désert. Et c'est aussi son bras qui les a conduits en captivité à Babylone, en guise de jugement. Et c'est encore son bras puissant qui va les ramener à Jérusalem. Et c'est le bras puissant de Dieu qui les conduira et qui les nourrira, qui portera les plus faibles et qui les protégera. Dieu est décrit ici comme le berger. C'est-à-dire celui qui prend soin de ses troupeaux. Dans mon bureau, j'ai une petite carte postale que j'ai trouvée, très vieille. C'est un berger, Sévenol, là, il a un grand... Les jeunes mamans vont savoir de quoi je parle, là, c'est un grand drap dans lequel ils peuvent envelopper leurs enfants. Lui, il a deux agneaux. Et j'aime cette pensée-là, c'est que le Seigneur, il est ainsi. Il porte ses agneaux. Dieu, il est un Dieu tellement puissant. Il est capable de mettre en déroute toutes les armées de Pharaon. Il est capable d'ouvrir une mer pour faire passer son peuple. Et c'est cette même puissance nous prend dans ses bras. Vous imaginez la sécurité dans laquelle vous vous trouvez quand vous êtes dans les bras du Dieu Tout-Puissant. Vous voulez une consolation? Juste laissez-vous, reposez-vous dans ses bras. Il dirige et il conduit le monde avec à la perfection et ses bras vous gardent. La description qui suit dans la suite du chapitre 40 elle est juste majestueuse. Je voudrais lire juste quelques versets. Verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Pris les dimensions des cieux avec la paume. Vous voyez, quand Dieu il mesure les océans, il met tout dans le creux de sa main. Et quand il veut mesurer le ciel, il fait comme ça, et tout tient. Mais voilà notre Dieu. Et puis il continue. Il a ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Il a pesé les montagnes au crochet. Vous voyez les montagnes? Notre Dieu, il est majestueux. Les collines à la balance. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Notre Dieu est infiniment sage. Il est intelligent. Il n'y a personne qui puisse le conseiller. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Vous avez déjà vu une balance? Ça, c'est les nations devant notre Dieu. Il est un Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut sur toute la planète. Un peu plus loin, verset 26, 25, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui les fait marcher en ordre, qui fait marcher en ordre leur armée, les planètes. Et il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. » Voilà notre Dieu. Il est capable de gouverner l'univers tout entier. Il connaît, il appelle par leur nom toutes les planètes. À plus forte raison, il sait, et il conduit vos vies à la perfection. Voici votre Dieu. Alors, pourquoi craindre? Pourquoi craindre? Verset 27, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Peut-être vous le dites, mais c'est quoi ce monde dans lequel on vit? Et pourquoi toutes ces difficultés personnelles? Quel est mon avenir? Quelle est mon espérance? J'ai l'impression que ma destinée elle est cachée. Dieu ne me voit pas, il ne me calcule pas. Pourquoi, dis-tu, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Vous ne pouvez pas dire ça. Peut-être vous subissez une situation particulièrement lourde, difficile à vivre. Ne dites pas, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Dieu gère, Dieu gouverne. Il fait tout à merveille. Faites-lui confiance. Ne le sais-tu pas, verset 28, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel se renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Faites-lui confiance. Reposez-vous sur lui. Notre Dieu n'est pas absent de tout ce qui se fait aujourd'hui dans notre monde. Au contraire, il dirige tout cela à merveille. Notre intelligence a du mal à tout saisir, à tout comprendre. Mais faites-lui confiance. Il gère les planètes. depuis l'aurore des temps. Ce grand Dieu majestueux, élevé au-dessus de tout, s'est fait petit enfant. Il est devenu humblement notre sauveur. Il s'est donné pour nous, il s'est offert pour que nos péchés soient expiés, pour que sa gloire soit révélée par sa grâce. Ses promesses sont certaines, elles s'accompliront. Il est le Dieu puissant et souverain, infiniment sage, qui fait toutes choses à merveille, toutes choses à la perfection, même quand il corrige son peuple, même quand le monde est agité et tremble. Dieu fait tout à merveille. Faisons-lui confiance. Ne craignons point, mais prosternons-nous et adorons.